On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et bonjour Geneviève et Rémi.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Geneviève Lajoie est, je le rappelle, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le bureau du Journal de Québec et de Montréal. Rémi, c'est le chef de ce même dynamique bureau, qui n'a plus de bureau, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Parlons d'Yves Michaud. Yves Michaud qui est mort, mais c'est le retour à l'affaire Michaud. C'est cette affaire qui l'a tant meurtri, ce pauvre homme. Gracieuseté du premier ministre Legault. Geneviève, tu as vécu ça en direct aujourd'hui dans les couloirs du Parlement. Raconte-nous comment ça s'est produit. On est jeudi aujourd'hui.
Oui, on a su la nouvelle au début de la semaine. Tout le monde a rendu hommage. Tous les partis politiques ont rendu hommage à M. Michaud, qui est un ancien journaliste, un ancien politicien aussi, mais qui a vécu une chose un peu particulière. Hein. Il est le seul au Québec à avoir été blâmé personnellement par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000. Un blâme donc qu'il avait, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, meurtri toute sa vie, il s'est souvenu de ça. Il a voulu faire changer les choses à plusieurs reprises, il a voulu faire changer ça, mais sans succès. Il y a des gens qui étaient alors en poste comme député, comme ministre, qui avaient voté à cette époque-là pour blâmer Monsieur Michaud, qui mm-hmm. se sont excusés dans les dernières années. On parle de Pauline Marois, on parle de l'ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin, on peut même parler du libéral Jean-Marc Fournier, mais il y en a qui ne se sont pas excusés. C'est le cas, par exemple, du premier ministre François Legault. Et aujourd'hui, donc, il y a le Parti québécois qui est revenu à la charge pour dire, ben, écoutez, peut-être c'est le moment de lui rendre des excuses posthumes. On a questionné le premier ministre dans les corridors de l'Assemblée nationale lorsqu'il sortait de son bureau. Visiblement, il voulait pas nous parler. Quand il sort juste quelques minutes avant la période de questions, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps, donc il va passer très rapidement. On l'a suivi dans le corridor, on lui a posé des questions. Est-ce que c'est le moment de faire des excuses posthumes à M. Michaud? Et ce qu'il a dit était assez surprenant. En fait, il a dit qu'il vivait très bien avec son vote. Et donc, il est rentré en chambre. Ça nous a surpris.
Et c'est le dernier parlementaire, je
il
pense,
reste Jean,
à avoir
Jean-François
voté là-dessus.
Jean-François Simard, qui était encore en poste et qui, lui aussi, était là à ce moment-là.
C'est vrai. Dans un autre parti. Les deux étaient dans un
Exactement,
autre parti.
Exactement. Mais ils sont deux qui sont encore en poste à l'heure actuelle et qui ont voté cette journée-là, donc le 14 décembre 2000. Monsieur Legault est venu.
Simard, est-ce qu'il s'est excusé?
Je l'ai pas entendu aujourd'hui. Je sais pas s'il a été croisé par des journalistes dans la journée. Le premier ministre est revenu s'expliquer ensuite, après la période de questions, pour dire que il estimait encore aujourd'hui que Monsieur Michaud avait tenu à l'époque des propos, qui étaient inacceptables contre la communauté juive. Et puis après ça, donc, il est retourné à son bureau. Ça nous refait parler de cette histoire-là qui avait tant fait jaser là, à l'époque et qui avait divisé les troupes péquistes, on se souvient, sous la gouverne de Lucien Bouchard.
Ça a même conduit au départ de Lucien Bouchard. Rémi, est-ce que c'est pas une autre espèce de distraction, ça, auto-infligée par M. Legault? Puis pourquoi il fait ça, selon toi?
Première partie de réponse, donc à ta première partie de question, oui, c'est une erreur de M. Legault. Je vois vraiment aucun avantage à faire ça. Au contraire, premièrement, là, dans la stratégie de communication, comme Geneviève l'a décrit, quand M. Legault marche dans le corridor, c'est jamais une bonne idée de lancer quelque chose à la volée qui va susciter comme une controverse ou des fortes réactions sans prendre le temps de s'expliquer. Donc là, en disant « je vis très bien avec mon vote », on se demandait « ok, pourquoi, pour quelle raison ?» Il n'y avait aucune explication. Et après ça, quand il revient, on dit que les propos à l'époque étaient inacceptables. Il y a deux choses. Moi, j'ai beau relire attentivement tous les propos de M. Michaud de l'époque, je trouve qu'on peut pas conclure qu'il s'agissait de propos antisémites. Il aurait fallu donc qu'il soit donc au moins appelé à s'expliquer. Ça n'a pas de bon sens de comme condamner un citoyen avec un vote comme ça, avec un tel poids de l'Assemblée nationale, il aurait fallu que ce soit sans équivoque. En fait, c'est ça aussi l'affaire. C'est que quand tu dis les propos, tu dis, ben là, peut-être qu'il y a comme une ligne, mais c'est pas assez clair pour dire que vraiment, il avait tenu des propos antisémites. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que M. Legault aurait dû, il aurait pu tout simplement aussi dire, le Parti québécois dit qu'il va revenir avec une proposition de motion, on verra. Alors, c'était pas, moi, je pense que c'était pas habile aujourd'hui, au lendemain du décès, d'aller retaper sur ce clou-là. Et en plus, sur le fond, je trouve qu'il a pas raison. Fait que
ouais.
C'est vraiment comme mauvais.
Oui, en plus, M. Legault, quand il s'est expliqué, oui, qu'il nous a dit que c'était des propos inacceptables, il fait référence à des propos, et c'est lui-même qui l'a dit, tenus à la radio à l'époque. Mais lorsqu'on...
Oui, il dit « je les ai entendus ».
Oui, sauf que lorsqu'on lit la motion qui a été adoptée, la motion de blâme, il s'agit bel et bien d'une référence à des propos tenus par Yves Michaud la veille du vote, c'est-à-dire le 13 décembre 2000, lorsqu'il était de passage aux États généraux sur le français à Montréal. Et donc, c'est très, mm-hmm, c'est ce qui est écrit dans la motion. Et puis, c'est une motion qui a été adoptée là en 3 secondes. Là. On se comprend, là, sans débat. Tout le monde s'est levé pour voter, puis bon, merci, bonsoir. Il n'y avait pas eu de débat là-dessus, il n'y avait rien eu, ça s'est fait très rapidement. Donc c'est ça. Donc il remet aussi, ça fait refaire surface aussi. Bon, c'est quoi le fil des événements à cette époque-là? Parce que M. Michaud avait tenu certains propos à la radio, il en a tenu d'autres aux États généraux, mais ce qui est bel et bien inscrit dans la motion à l'époque, c'est ce qu'il a dit aux États généraux sur le français, là.
C'est comme si ça ravivait cette histoire-là qui a tellement fait jaser. Il y a même eu un livre de Gaston Deschênes là-dessus, Chronique d'une exécution parlementaire, où il cite notamment Robert Liebman, qui a été chef du Parti Égalité, qui dit « Depuis le déclenchement des événements, ça c'est en 2001 que Robert Liebman dit ça, la parole de M. Michaud a été déformée de façon incroyable. Les gens l'accusent de minimiser l'Holocauste alors qu'il n'a jamais fait ça. » On l'accuse aussi d'être antisémite. Moi, pas. Je pense pas qu'il l'est. C'est quand même quelque chose. Alors, on continue. Geneviève, donc, tu as écrit sur le sondage Léger qui t'en fait parler cette semaine. Ça a été vraiment une semaine difficile pour la CAQ encore.
Oui, c'est une autre semaine difficile pour la CAQ après le budget la semaine dernière et le sondage, justement, demandait aux Québécois ce qu'ils pensaient du budget. Et les Québécois sont pas contents du budget. Ça passe pas dans l'opinion publique. Le 11 milliards de déficit, un déficit record, faut le rappeler. Mais de toute façon, une phrase qui a été très intéressante dit par le sondeur Christian Bourque, c'est que peu importe ce que va faire de toute façon à partir de maintenant Monsieur Legault, à cause des controverses, à cause de l'usure du pouvoir, peu importe ce qu'il fait, en fait, même si ça peut paraître positif, c'est perçu négativement par la population en ce moment.
C'est terrible, hein? Oui, c'est...
Ce qui m'a fait écrire, d'ailleurs, un mot que tu as relevé, il a la poisse en ce moment, Monsieur Legault. Alors, tout ce qu'il oui, fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est mal perçu, mal interprété. Donc, ça risque de continuer, je pense, dans les prochaines semaines. On verra si... Et M. Legault, cette semaine même, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes en réflexion sur votre avenir? Est-ce que des sondages comme ça, ça vous fait réfléchir? Continue de dire que non, qu'il sera là, donc, en 2026, aux prochaines élections. Mais c'est sûr que s'il réfléchit sérieusement, bon, peut-être qu'il nous le dira pas, de toute façon, là, mais il va falloir qu'il se décide bientôt.
On l'a interviewé, nous trois, pendant la campagne, il nous avait dit qu'il y avait deux conditions. Si les Québécois veulent de moi et si j'ai la santé. Il me semble que la première condition n'est plus remplie, en tout cas.
De moins en moins.
Rémi, là-dessus?
Ben, c'est ça, de moins en moins. Écoute, c'est ça, il y a quelque chose de cruel dans ça, parce que on peut pas dire objectivement que le gouvernement Legault fait rien de bon, mais...
C'est ça.
En tout cas, on peut pas dire non plus qu'il l'essaye pas. C'est-à-dire que, bon, pour la santé, l'éducation, des postes importants, il y a des réformes en cours. Peut-être que les réformes vont apporter des fruits, mais ça prend du temps. Et là, ben, pour l'instant, M. Legault est pas habile. On le voit. On parlait de sa sortie aujourd'hui, mais ça, je dis, c'est un exemple parmi plusieurs depuis le début de l'année encore. Et après un automne épouvantable, là, avec le troisième lien, et les revirements. Donc, je pense que les gens ont comme perdu confiance. Les gens ont l'impression que M. Legault dit un peu n'importe quoi pour essayer de garder la faveur populaire, et ça fait en sorte d'amener le contraire, tu sais, parce que les gens donc croient pas là, qu'il y a une sincérité là-dedans et des convictions. Donc c'est ça, c'est un mouvement qui est difficile à renverser. Donc on verra la suite des choses, mais il y a des éléments quand même importants qui s'en viennent d'ici la fin de la session parlementaire. Monsieur Fitzgibbon va présenter sa vision pour la consommation d'énergie. Geneviève Guilbeault, son projet de loi pour l'agence de transport. Donc des choses qui s'en viennent, mais bon, en même temps, est-ce qu'il y aura vraiment suffisamment là-dedans pour séduire les Québécois? Tu sais, je suis pas sûr.
Ils ont la poisse!
Ouais.
Geneviève, un mot, puis après ça, on va aller au pouce en haut et au pouce en bas de Rémi en fin de semaine. Geneviève.
Oui, dans le cas de la CAQ, tu sais, la CAQ, en tout cas, plusieurs le disent, le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement d'un seul homme. La CAQ, c'est François Legault. Donc, François Legault ne performe pas bien, quand les jeunes ne sont pas contents de François Legault, c'est toute la CAQ qui est influencée, là.
Et c'était l'inverse quand il était porté au nu, hein?
Donc, peu importe ce que les ministres vont présenter de positif, ce qu'on va se souvenir, c'est de la déclaration de François Legault, de la telle déclaration controversée, beaucoup plus que ce que ces ministres présentent.
Rémi, pouce en bas, pouce en haut, ben, écoute, en fin de semaine?
Benoît Charrette, il s'est fait prendre parce qu'il avait déclaré que l'usine de Northvolt, ça aiderait le Québec à atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et puis, le Devoir a fait un exercice très intéressant. Ils ont demandé, le ministère de l'Environnement avait rien pour prouver ça. Donc, M. Charrette était obligé de reculer puis de dire que dans le fond, il n'y a aucune idée. Donc ça, on peut pas dire que c'est très reluisant pour M. Charrette. Pas une bonne semaine pour lui.
Un pouce en bas.
Ouais, exactement. Parmi les gens pour qui je pense qu'il y a des bons coups cette semaine, Bernard Drinville, moi, écoute, le tableau de bord en éducation, je pense que c'est un plus, bien qu'on a vu jeudi dans les médias le fait que le tableau de bord en santé comportait là, quelques anomalies. Mais quand même, tu sais, sur le fond, c'est un plus que le ministère de l'Éducation ait davantage de données provenant des écoles, et ça peut permettre d'apporter des améliorations. Et au-delà de ça aussi, moi, je suis pas contre l'intention annoncée de Bernard Drinville de créer peut-être un palmarès des écoles. Moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je trouve que tout le monde, tu sais, fait plus d'efforts pour s'améliorer quand il est comparé avec des semblables.
Et de toute façon, les parents s'en font un palmarès parce qu'ils en discutent. C'est quoi, t'as ta bonne école? Est-ce qu'il y a une meilleure école?
Oui, exactement. Fait que moi, écoute, moi, je trouve que ça, c'est bien. Donc, Bernard Drinville, je trouve relativement bonne semaine de son côté, là, en raison de ça.
OK. Moi, je mets un pouce en bas à André A. Morin, aujourd'hui, du Parti libéral, qui a carrément remis en question le vote de son parti sur la fameuse motion, là, sur cette expression « personne avec un vagin » qui a été utilisée par la Cour suprême. J'ai trouvé que c'était incroyable. Il a dit « c'est pas une motion de la CAQ ». Oui, mais il a voté pour. C'est surprenant. Alors, Rémi, Geneviève, à moins que Geneviève ait un petit mot… on va se laisser là-dessus, Geneviève.
Ben sur monsieur Morin justement. Oui. Donc on a compris qu'il avait lu en diagonale, il a bien dit en diagonale
le jugement de la Cour suprême.
Le jugement de la Cour suprême, et il reproche maintenant à la CAQ, au ministre de pas avoir fait leur job avant de leur présenter une motion.
Incroyable. C'est un vrai pouce en bas. On se laisse là-dessus sur du négativisme, désolé, et merci beaucoup et on se reparle très bientôt.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.